Normal, pas normal. Et si on en parlait?
Et si on en parlait? Il est question ce matin d'alliance politique en Côte d'Ivoire. L'intérêt prime-t-il sur les idéaux? C'est la question qu'on s'est posée, ou qu'on se pose, ou qu'on se posera, Armel Mendy.
Justement, Gérard, s'il y a un lieu où on se marie aussi vite qu'on divorce en Côte d'Ivoire, c'est bien dans nos partis politiques. On se marie, on divorce, on se marie. Les alliances se créent, meurent, se réécrivent au gré des intérêts du moment, des enjeux du moment. Et l'exemple le plus récent, c'est Simone Gbagbo qui ne file plus le bon cordeau, le parfait coton avec Laurent Gbagbo du PPSI. Elle se rapproche du PDCI de Perpignan, d'Henri Conan-Bédier. Le PPSI lui-même qui se rapproche du PDCI d'Henri Conan-Bédier. Yamien Conan, lui, a réintégré la maison, le PDCI, après un séjour où il voulait voler de ses propres ailes comme nos jeunes. Eh bien, peut-être qu'il s'est brûlé les ailes. Au vu de tout ceci, une question me taraude. C'est quoi l'intérêt de ces alliances politiques? Les intérêts personnels priment-ils sur les idéaux véhiculés dans nos partis politiques? Vos avis nous intéressent.
27 225 49 880, les intérêts priment-ils sur les idéaux, sur les valeurs? Tiens, Lynn Beugré, ce matin, on va rappeler quelques faits quand même qui nous confortent bien évidemment dans la question que nous nous posons ce matin.
Alors, je pense que Armel Mendy a un peu fait le tour déjà. Hein. Déjà, on se souvient, en 1995, le FPI de Laurent Gbagbo et le RDR de M. Jenny Kobina avaient créé le Front Républicain.
C'est ça.
En 2005, s'est ajouté le projet de fusion, parce que 2005, c'est déjà le projet de fusion entre le RDR et le PDCI, qui a pris forme en fin 2010. Donc, une alliance qui sera rompue par la suite en 2018. Et puis, aujourd'hui, plusieurs alliances en sont annoncées. Je dirais, projet RHDP, FPI d'Afiongessan, MCG, PPACI, des retours qu'on entend de part et d'autre.
MGC,
de...
oui,
voilà,
oui.
Voilà, MGC, pardon. Et puis le retour de certains cadres de certains partis, dont Yamien Conan au PDCI, Mabri Touakeuse
au RHDP.
Du coup, nous sommes, on peut dire, dans un tourbillon. Je ne sais pas comment dire, mais nous sommes à la limite dans un tourbillon.
C'est le seul lieu où l'infidélité est pardonnée.
Bon, je ne peux pas dire tourbillon d'infidélité.
Bon, ouais, bon. C'est vrai que c'est un tourbillon, c'est une spirale, tu vois,
voilà,
qui revient sur elle-même à chaque fois.
Et quand on sait que chaque parti a son idéal ou bien ses idéaux, bon, celui, il est de gauche, celui, il est de droite.
C'est ça.
Lui, ce sont des idées communistes et tout. Bon, finalement, qu'est-ce qu'on défend? À quoi répond toutes ces alliances qui se font et qui.
Qui se défendent finalement.
Voilà.
Ben, écoutez, moi je crois que de toutes les façons, les alliances en politique ont toujours existé et existeront toujours. Ça, c'est clair. Maintenant, comme on le pose comme problématique ce matin, est-ce qu'on garde bien évidemment ses idéaux et ses valeurs en s'associant? Sur quelle base, bien évidemment, on s'associe? Est-ce qu'on le fait? Parce que, par exemple, vous parliez de Mabri Touakeuse. Il était question du fait que l'UDPCI fonde dans le RHDP. C'est ce qui était en tout cas discuté, c'est ce qu'on a entendu, c'est ce qui est le deal sur les tables. Voilà, donc et aujourd'hui, il y a certaines alliances qu'on a considérées comme inimaginables il y a quelques temps. Il y a certaines alliances même qu'on considérait comme contre nature. Mais bon, comme quoi la politique réserve toujours des surprises qu'on ne peut pas, auxquelles on ne peut pas toujours s'attendre. Et pour moi, franchement, les alliances... c'est à ne rien y comprendre complètement. Monsieur de Perpignan, je sens que vous avez envie là-dessus de dire des choses.
Ah oui, des choses, parce que en 2025, tout ça va changer.
D'accord.
Mais
il n'y aura plus d'alliance?
Il n'y aura plus d'alliance, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les politiques, ils pensent à leur ventre, ils pensent à la couleur de leur veste.
Ok.
C'est tout l'objectif, tu vois.
Donc, pour toi, les politiques ne sont mieux que par l'intérêt, en fait.
L'intérêt, parce que.
Que l'intérêt.
L'intérêt de qui, exactement?
Monsieur Babri, toi que qui allait faire le tour des montagnes, qui a trouvé que c'était trop humide, qu'il fallait revenir à la maison pour se sécher des habits, sachant que tu as un parti politique, le parti a besoin de vivre.
C'est
donc
ça.
Il faut que le parti soit autonome. Mais comme lui, il a vu qu'il était un peu humide, qu'il rentre à la maison sécher son habit chez son oncle, il vient tranquillement. Et le parti, moi je dis en Côte d'Ivoire, arrive un moment quand tu veux créer parti, on te demande parti là où tu vas jusqu'à. Et puis quand il crée parti, il faut qu'on leur donne un temps de solitude, de lutte. Qui dit, tu as créé SGCI, tu as créé PPACI, tu as au moins 50 ans de vie de lutte. Après, tu pourras t'allier à
ton Monsieur le Perpignan, tu exagères.
Non, je n'exagère pas, parce que c'est ce qui est en train de se passer. Aujourd'hui, Madame Gbagbo, elle a créé son parti. Harry Konan Bédié présenter son parti, comme si Harry Konan Bédié était le gardien de la maison où on inscrit les partis.
Il attaque tout le monde, ce monsieur-là.
Oui, non, mais je veux dire c'est beau de voir cette dame aller parce que entre nous, c'est pour dire qu'entre nous, on discute de politique, mais on n'est pas ennemis. Après, moi, je dis, il faut que la population, l'Ivoirien ou le votant, regarde tout ça et analyse. On ne peut pas comprendre que hier, Bédié au Sékou. Et puis aujourd'hui, on se retrouve contre Bédié au Sékou. Maintenant, ça devient Gbagbo au Sékou. Attends, on va pas chaque fois sortir de la musique pour faire plaisir à quelqu'un. Les alliances, pour moi, c'est, on est en train de perdre le temps. Et nous, moi, je ne veux pas le PDCI. Nous, on va revenir au pouvoir en 2025. Personne ne va venir nous emmerder pour partager le pain.
On attend 2025.
Allons-y, mon cher Mendy.
Non, ce que De Perpignan dit, il y a une partie de vérité là-dedans. C'est comme si les sympathisants, les membres des partis politiques sont comme des marionnettes qui doivent s'adapter justement au gré du changement ou des intérêts de leur leader. Mais ce qu'il faut savoir surtout également, c'est que la politique, c'est la saine appréciation des réalités actuelles.
Dis ça facilement. Pour le gars qui a commencé.
C'est dire que la situation qui prévalait hier, là, c'est pas la même situation aujourd'hui. Donc, en fonction des situations qui se présentent à toi, il faut adapter ta politique.
D'accord.
Et donc, on a compris également que dans la configuration actuelle dans laquelle nous sommes, aucun parti politique ne peut prétendre à la magistrature suprême seul. Donc, il faut aller en ordre de bataille. Donc, il faut avoir des alliés pour pouvoir conquérir le pouvoir d'État. Et donc, c'est normal que dans l'ordre des choses, je dise, par exemple, à Gérard, c'est vrai, on ne s'est pas entendu hier sur tel événement. Voilà, j'ai trouvé que ton animation était classique. Je vais partir sur un truc un peu ironique. Et qu'on décide de se mettre ensemble et de fusionner, pour proposer un projet commun.
Donc, monarchique.
Non.
Ça, c'est rien d'aller dans la démocratie.
Ce qu'ils font. M'abris-toi que hier, ils ne s'entendaient pas avec Alassane Ouattara parce que Alassane Ouattara voulait faire disparaître par exemple l'UDPCI. Alors que l'UDPCI, c'est un parti qui lui est cher et ça représente également la mémoire de Gueye, de tout un peuple également qui soutient Gueye. Si aujourd'hui on lui dit par exemple non, on peut être au sein du RHDP en gardant son identité, ça l'intéresse, il intègre le RHDP.
Bon, Lynn Beaugré.
Alors moi je vais dire, déjà tout à l'heure il parlait d'adapter sa politique en fonction de la réalité. Dans ce cas, on va se tourner vers la population elle-même qui est censée maintenant aujourd'hui regarder plutôt les programmes que les partis. Parce que moi je vais adapter ma politique à la réalité, dans ce cas c'est ce que je vais proposer à la population comme projet de gouvernance que vous devez regarder. Maintenant, à côté de cela, quand on regarde nous autres, notre génération, si on veut parler d'idéal, je prends moi par exemple ma génération actuelle, la majeure partie d'entre nous a écouté, a apprécié le discours panafricaniste de Laurent Gbagbo. Une grande partie est derrière.
Vous avez apprécié le discours panafricaniste.
Une grande partie.
Moi, le panafricanisme, c'est de l'imagination.
C'est de l'imagination pour toi.
Juste tout à l'heure.
Laissez-le terminer,
s'il vous plaît. Oui, Lynn.
Ok, donc comme je disais tout à l'heure, lui ça ne l'intéresse. Non, j'ai dit la majeure partie de la génération d'aujourd'hui.
Bon, on n'avait pas de Chiffline.
Il y a une génération.
Laisse-le.
Quand je parle de ça, je parle d'idéal.
Vous oubliez l'idéal.
Vous battez dedans, vous.
Non, pas du tout. Je ne suis pas là pour la bagarre. On est en train de défendre nos idées. Alors, parlant d'idéal, moi je me dis aujourd'hui, si on doit adapter sa politique à la réalité, c'est qu'on n'a pas d'idéal.
C'est ça.
Parce qu'aujourd'hui, tu vas dire que je défends, par exemple, les intérêts des Africains. Moi aujourd'hui, je me dit, on a envie de voir une Côte d'Ivoire indépendante à tous les niveaux.
C'est ça.
Plan sécuritaire, côté économique, et puis je vais dire, même au niveau des institutions, des prises de décision et autres. Logique que j'écoute et que je suive le discours de quelqu'un qui va dans le même sens que moi.
Bien sûr.
Si demain, il va dans le sens contraire, il est clair que je ne vais pas le suivre. Le programme de quelqu'un. Et aujourd'hui, comme, comment il s'appelle, M. Desperpignan l'a dit, on n'a pas de parole. Voilà, aujourd'hui,
On va dans tous les sens.
Donc chacun sèche ses vêtements là où le soleil brille. Il n'y a pas d'intérêt réel. L'intérêt, il est pour qui finalement? Donc ne serons pas surpris que nos hommes politiques eux-mêmes nous fassent tourner en rond.
C'est ça.
Parce que nous-mêmes, on n'est pas conséquents avec ce qu'on veut.
Il y a une question aussi derrière ça, bien évidemment, que j'ai envie de poser ce matin. Est-ce que, puisque nous sommes sur les idéaux et qu'on bafoue au profit des intérêts, est-ce que ça discrédite nos hommes politiques, en fait, que de faire ce genre d'alliance. Parce que là, aujourd'hui, quand on voit que dans la tendance ou dans la balance, il y a une certaine alliance qui est en train de se dessiner, en tout cas, notre confrère Jeune Afrique l'a mentionné il y a quelques jours, entre le FPI de Affine Guessant et le RHDP de Alassane Ouattara, est-ce que ça discrédite un peu les hommes politiques,
pour tout moi, ça, Waylim Beugré? Pour moi, oui. Mmh. Parce que déjà, monsieur Mabry Touakeuse a quitté le RHD pour quelle raison? Et pourquoi est-ce qu'il revient? Monsieur Niamoyen connaît qui a dénoncé
le PDCI. Certains faits,
qui a quitté le PDCI, qui revient. Pourquoi il avait quitté? Donc, c'est une manière de nous embrouiller, nous les jeunes. Okay. Donc, on n'a pas de repères. On ne sait même pas où on va. Celui-là a dit quelque chose. Voici le FPI aujourd'hui d'Affine Guessant, qui se détache de son mentor initial.
Okay.
Donc, qu'est-ce qu'on défend en fin de compte?
D'accord.
Voilà, donc moi, ils ne sont pas crédibles.
Moi, pour rajouter rapidement, tu l'as dit, moi, là, ce côté, je ne suis pas un peu trop d'accord. En fait, c'est ton point de vue. Hein.
C'est ça.
Quand il dit c'est le programme, moi, je dis le programme. Tout le monde peut réaliser le programme que quelqu'un a dit. Moi, c'est la personne. La personne, c'est le modèle, c'est la parole.
Les Ivoiriens ne sont pas éduqués à suivre un programme. Ils sont éduqués à suivre une personne.
Une personne, non, mais c'est ce qu'il faut bien, parce que le programme dont on parle, on a vu un peu autant de Koudou, peut-être que dans les débuts, il avait parlé de métro. Nicolas Diolo en a fait son cheval de bataille. Mais aujourd'hui, qui réalise le métro, c'est Alassane Ouattara qui
tout a fait.
C'est-à-dire que le projet de l'autre peut être réalisé par celui qui est là. Donc moi, c'est plus la personne.
C'est ça.
Moi,
je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Parce que là, je veux dire qu'aujourd'hui, dans les démocraties occidentales, à quoi on assiste, c'est que les gens se basent sur le programme, etc. Mais ici, tel qu'on est éduqué depuis qu'on a commencé la politique, depuis que le multipartisme est venu, même ici, c'est une personne précise, même si son programme n'est pas aussi fameux, bon, on y va, quoi. Oui, Armel Mendy.
Bon, on pourrait le comprendre, hein, parce que vu que... moi, je pense qu'à la base, c'est pas totalement vrai.
Qu'est-ce qui n'est pas totalement vrai?
Penser qu'on suit une personne, on suit également une idéologie. Le PDCI, par exemple, s'est construit sur la base des luttes. Et donc, c'était un parti qui reflétait...
Et à base de quelle lutte?
La lutte, justement, allons-y, on parle du RDA, RDA, PDCI. On en vient justement à créer un parti et qui reflétait... Je vous dis, la Côte d'Ivoire, dans sa globalité, dans sa généralité. Vous allez voir au sein des partis comme le PDCI, des Mandingues, des Doula, des Baoulé, des Yakouba, des Wassi Dankoni.
Il y avait un contexte aussi.
Non, je veux dire...
C'est le premier parti ivoirien, d'ailleurs.
Merci.
Donc, n'oublie
merci.
Pas.
Merci. C'est le contexte. C'est le contexte. Allons-y.
Donc, ça a évolué, justement. Et quand on me parle d'idéologie... Qui est capable de me dire si telle idéologie véhiculée par le PDCI, quelle idéologie véhiculée par le FPI, quelle idéologie véhiculée par le MGC? L'idéologie, au fait, c'est ça n'existe quasiment pas en Côte d'Ivoire. Soit on réalise
ça. C'est selon toi, mon ami.
C'est les gens de la montagne, c'est comme ça.
C'est selon
après,
toi.
Après, ils vont venir nous faire la couverte au PDCI.
Soyons réalistes. Il n'y a aucune idéologie dans nos partis politiques. C'est des idéologies calquées sur l'Europe. Je suis de la gauche, je suis de la droite. Ça signifie quoi être de la gauche, de la droite pour un Africain?
Le français que tu parles, il vient d'où?
Ça signifie quoi être de la gauche et de la droite pour toi, Gérard? Non, moi. Non, mais... Ça signifie rien,
mon cher Armel Mendy, tu soulèves des choses, moi qui m'interloque ce matin, quand tu dis tiens, ça signifie quoi et la gauche et la droite?
Je veux dire, on copie. Tout ce qui est idéologie des Français là-bas.
Même plus que c'est là-bas,
on comprend rien en fait.
Tu avais la démocratie.
Il faut que la Côte d'Ivoire. La démocratie existait. Hier, tu me disais, on était à la Bissa, le roi dansait. On a dit à la population, on venait danser, décrire des choses. Démocratie a toujours existé en Afrique. Allons-y.
Je parle de la démocratie politique qu'on nous a apportée. Donc les lois que tu suis là, ce sont des lois que tu as écrites en fonction de ta culture qui est ici.
C'est ce qui devait être.
Pour
revenir sur le sujet,
oui.
Je suis en train de dire que les politiciens également, ils s'adaptent à nos réalités. Ils savent que notre société est en pleine mutation. Les défis d'hier ne sont pas les défis d'aujourd'hui. Donc ce sont pas des pensées, c'est pas des idéologies qui doivent être figées. C'est des choses.
Même si c'est des pensées et des idéologies qui ne doivent pas être figées, est-ce qu'il faut pour autant les changer complètement ou les troquer au profit d'intérêts qui sont non seulement politiciens mais assez personnels? Voilà. Il faut juste les adapter. c'est une question d'adaptation, mais c'est pas une question de changement radical. C'est pas une question de se renier complètement.
Ouais. Bah, voilà. Voici quelqu'un qui va me dire qu'il n'aime pas l'huile et que le sang, je le vois en train de prendre de l'huile. Ah. Mais tu seras jamais crédible à mes yeux.
Non, ben, attends.
Voilà.
Clairement.
Voilà, parce qu'aujourd'hui, à part Mabri qui quitte, enfin, qui vient avec son UDPC, sa carte d'identité là, dans le coin, à part lui, les autres, l'intérêt des autres, c'est quoi?
Et ça joue sur notre société, ça joue
si
sur
le monde. Si demain, Afin Guessant va se greffer au RDP pour aller en bataille avec le RDP, le reste des FPI qui sont dans les Kéferos, ils font quoi?
Est-ce que vous pensez qu'en toute objectivité, il y a même
tout ça, que le PDC reste toujours fidèle à ses idéologies.
Les amis, il est l'heure.
En 2025,
est-ce que vous pensez que en toute objectivité, peut briguer, je veux dire la magistrature suprême en 2025.
Mais
il sait
pas.
Que seul il ne peut pas.
Pourquoi
mais
justement, pas.
Pourquoi pas.
C'est qu'il peut pas. Bon, les amis.
Attends.
Mais il est là.
Non, mais justement,
il sait que seul il ne peut pas.
Non, Armel Mendy, il le peut
d'où
pas.
D'où l'intérêt des alliances.
Non, il le peut pas parce que des gens comme vous pensez comme ça. Parce que si on regarde le programme d'une personne, on pourra voter la personne.
Vous connaissez
vous regardez quel la est le programme personne, de monsieur, excuse-moi. Vous regardez la personne et vous suivez l'ethnie également. C'est ça le problème aujourd'hui de la politique en Côte d'Ivoire.
Merci les amis. Merci beaucoup.
Normal, pas normal. Et si on en parlait les...
Nous en parlerons, bien évidemment, ce matin. Monsieur Gbané Baba Oumar est notre invité. Bonjour, monsieur, bienvenue.
Bonjour, monsieur.
Comment allez-vous ce matin?
Oui, ça va très bien.
Parfait. Vous êtes directeur des publics du développement culturel au Musée des civilisations de Côte d'Ivoire. Bienvenue chez nous. Déjà, commençons. Plus de 100 ans après, la Côte d'Ivoire va donc rentrer en possession du Didi Ayoko, un tam-tam parleur bidjan, restitué par la France. Comment vous accueillez justement cette nouvelle?
Ok, il faut dire que nous sommes déjà tous enthousiastes par rapport à l'objet qui vient.
Ok.
Et cette question a pris déjà une tournure politique au point où tous les pays comme le Bénin, le Nigeria et autres pays ont commencé à recevoir leurs objets.
Tout à fait.
Et sur une liste de 148 objets, la Côte d'Ivoire reçoit un seul, le premier, qui se trouve être le tambour Didi Ayokwe des Atchans. Et il faut dire qu'on a fait le choix de ce tambour-là parce que nous avons procédé par... l'exposition que nous avons aujourd'hui au Musée des civilisations, voilà, représente plusieurs communautés de Côte d'Ivoire.
Tout à fait.
Et le tambour Atchan, c'est-à-dire que c'est symbolique d'abord dans un premier temps, mais il faut dire que bien que nous soyons situés à Abidjan ici, qui est le terroir des Atchans, il n'y a pas d'objet important Atchan au Musée des civilisations.
Okay.
Et donc c'est pour réparer ce déséquilibre-là.
C'est une double réparation en gros.
Oui, effectivement, que nous avons voulu faire venir ce tambour-là qui est majestueux, qui a une histoire... vraiment fabuleuse. Et donc, nous racheter vis-à-vis des Atchans et aussi entrer dans la même ligne que l'Occident aussi qui cherche à se racheter des pays africains.
D'accord. Cette question pourrait paraître un tout petit peu bateau. Comment la France s'est-elle procuré ces objets-là? Nous sommes curieux de savoir.
Oui, en fait, pour tout ce qui concerne les objets culturels, on dit généralement que voilà, l'Occident a volé ces objets, l'Occident les a pillés. Mais il faut dire que pour le tambour Didi Ayokwe, c'était... comme tout autre instrument de musique, c'est un peu un objet de communication, un instrument de communication.
Tout à fait.
Voilà, qui permettait aux Atchans de se mettre à l'abri contre les colons qui venaient les soumettre à des travaux un peu difficiles qui n'entraient pas dans leurs habitudes. Et donc, plusieurs fois, les colons logés au plateau voilà, sentaient que une partie de la zone grouillait de monde, il y avait du bruit, du vacarme et tout ça. Mais lorsqu'ils prennent la décision d'y... ils rejoignent ces populations-là. Quand ils arrivent, ils trouvent qu'il n'y a personne sur le site. Et donc, ils ont essayé. C'était un peu curieux pour eux. Et donc, ils étaient en train de chercher à comprendre. Lorsque quelqu'un parmi les populations autochtones donne l'information que c'est le tambour qui permettait
à
tout le monde de se mettre à l'abri.
Et
donc, du coup, voilà, ils sont venus. Ils n'ont vu personne. Le tambour était exposé. Là, ils ont pris le tambour. Donc, depuis 1916... ils l'ont pris et ils l'ont exposé aux intempéries au palais du gouverneur de Benjerville.
Tout à fait.
Il est resté là jusqu'en 1934-1935 avant de partir en Europe. Et donc, du coup, l'objet, il a été, disons, bafoué.
OK.
Et donc, il est parti en Europe depuis 1934-1935. Et jusque-là, il se trouve en Europe. Et aujourd'hui, il se trouve être l'objet qui revient. Et donc, du coup, il faut dire que voilà, ça sera un rachat de l'Occident vis-à-vis de l'Afrique. Et aussi, ce sera quelque chose qui va amener aussi les Atchans voilà, reconstituer leur organisation autour d'un objet symbolique.
L'objet est donc quitte la Côte d'Ivoire pour la France. Il y est conservé.
Oui.
Mais pourquoi ?
Il est conservé, il n'est pas conservé comme ça parce qu'il fallait désorganiser la population afin de le soumettre à leur mission. Ils sont venus pour coloniser, il y avait des travaux à faire, la main d'œuvre c'était la population autochtone. Ceux-ci ne voulaient pas se soumettre.
Okay.
Et donc vraiment il fallait trouver, comme on appelle même, il fallait les désorganiser en quelque sorte. Il faut prendre l'objet qui les réunit, l'objet de communication, de sorte à pouvoir leur empêcher la communication et les soumettre à leur tâche. Et donc voilà, ils ont été surpris, ils ont été faits prisonniers, et voilà, il y a eu toutes sortes de bafouements. Ils ont été massacrés, ça a coûté la vie à d'autres personnes, à certaines personnes, et les autres ont été effrayés et tout ça, au point où les Achats, il faut dire que n'ont pas accepté l'école occidentale parce qu'ils voyaient les Occidentaux ou encore les colons, voilà, comme les ennemis, les gens qui venaient désorganiser tout. Et donc, du coup, voilà, ils sont restés en reste. Et donc, ça a créé une grande blessure au niveau des Achats.
Tout à fait.
Donc, du coup, socialement, ils ont été blessés. Ils ont même été désorganisés. Et ce qui a fait qu'ils sont, voilà, restés un peu, voilà, comme on le trouve aujourd'hui.
C'est ça,
voilà.
C'est ça. OK. C'est ça. L'Afrique, tant bien que mal, essaie d'exister sur le plan artistique et culturel dans la configuration mondiale que nous connaissons. Pour de tels objets à haute valeur qui nous sont restitués, avons-nous l'expertise nécessaire pour les conserver ?
L'expertise est là. Je le dis tout le temps que l'expertise est là.
Parce que le tambour à Yoko, par exemple, c'est 116 ans au moins de conservation. Qui nous revient, même si quelque part les termites ont fait un petit boulot à côté. 116 ans de conservation. Est-ce que nous, aujourd'hui, on a les capacités, on a l'expertise ?
Les capacités sont là. Et il faut dire que, en termes de conservation, moi, je pense que. On a toujours tendance à dire que le meilleur, c'est l'Occident. Mais il faut dire qu'en termes de conservation d'objets d'art, l'Afrique aussi a une place importante.
Okay.
Voilà, l'objet était dans la communauté. L'objet a été retiré. Il a été exposé plus de 15 ans. Intempéries. L'objet a résisté. Il est parti en Europe. Il n'a même pas eu le temps d'être exposé comme il fallait. Et il se trouve présentement dans les réserves. Quand on dit les réserves, c'est un peu comme les storage, là où les stockages.
C'est ça.
Voilà. Il n'a pas été exposé au Quai Branly, mais il se trouve toujours dans les réserves du Quai Branly. Aujourd'hui, l'objet est un peu affaibli et il faut consolider l'objet, voilà, de sorte à pouvoir le ramener sans qu'il ne s'effrite, sans qu'il n'y ait des cassures.
OK.
Et donc, c'est ce qui est fait présentement. Bon, c'est ce qui est en train d'être fait présentement. Et donc, du coup, il faut dire que nous avons déjà conservé l'objet et le choix du matériau, voilà, entre dans la conservation. Voilà, il a 106 ans, voilà, d'expropriation. Voilà, mais bien avant, 1916, l'objet a bien existé et jusque-là, voilà.
C'est ça.
Et on a tendance à dire que l'Africain ne conserve pas, on conserve toujours.
OK.
Et quand vous arrivez au musée, vous allez voir que les premières collections ont été acquises en 1941.
OK.
Les objets sont encore là.
Et certains en bon état.
En très bon état.
En très très bon état.
En très bon état. Okay. Je vous le dis, il y a une confusion en tant que, dans ce domaine-là. L'objet est conservé en bon état. Mais il faut dire que pour l'acquisition de l'objet, on ne prend pas l'objet au marché. Et les objets qui ont servi à des communautés qui sont conservées, qui intéressent les muséologues, les collectionneurs et encore les antiquaires. Et quand l'objet, bien qu'il représente la communauté, il n'a pas servi, il n'est plus authentique. Il devient un objet artisanal. Parce qu'il n'incarne pas l'âme d'une communauté. Et donc, ce qui fait qu'on entend souvent dire que les objets de musée sont des vieilleries et tout ça. Mais c'est cette vieillerie-là qui fait l'authenticité de la chose.
Okay.
C'est ce qui fait la richesse de la chose. Parce qu'il y a des âmes des communautés là-dedans.
Tout à fait.
Et ce sont ces âmes-là que nous conservons. Et chez nous, dans notre jargon, on le dit, les mémoires collectives. Un objet qui n'a pas servi à une communauté, il ne peut pas être culturel. Il est artisanal ou personnel.
Parfait. En tout cas, les objets, bien évidemment, dans nos musées vivent. Ouais. Il y a quelque temps, pour être plus précis, il y a 4 ans, le ministre Maurice Kakou Bandama, ministre de la culture et de la francophonie d'alors, annonçait la construction d'un musée national de stature internationale, ainsi que de musées régionaux d'une capacité de 2000 pièces. Qu'en est-il ? Est-ce que c'est effectif aujourd'hui ou c'est encore en cours de projet ?
C'est en cours de projet. Mais 2000 pièces, c'est minime par rapport à ce que le musée des civilisations aujourd'hui regorge. Mmh. Nous avons dans nos réserves plus de 15 210 pièces.
Okay.
Et à côté de ça, nous avons plus de 600 pièces qui sont exposées dans la salle d'exposition.
Okay.
Et voilà un peu pour dire que 2000 pièces... C'est minime pour chez nous.
Mm-hmm. Mais en fait, c'est ce qu'il a annoncé. Il a dit dans son projet qu'il y aura des musées régionaux avec au moins une capacité de 1000 pièces.
Oui, en fait, c'est ce qu'il faut. Mm. Avant d'avoir un musée national, il faut d'abord des musées régionaux.
Okay.
Mais en Côte d'Ivoire, il n'y en a pas.
Okay.
Par exemple, notre musée est riche en objets baoulés, est riche en objets senoufo, est riche en objets gouro et tout ça. Mm. Mais dans ces localités, de ces différentes communautés-là, il n'y a pas de musée qui regorge tout ça. Mm. Donc la nécessité, ce qui est important pour un musée national, c'est de recevoir des objets des différents musées régionaux pour que le musée rime avec le thème national.
Mm-hmm.
Mais aujourd'hui... Les baoulés, ils en ont plusieurs blolos, c'est-à-dire les épousés pour de l'au-delà. Et il y a les senoufos qui ont les wambélés qui sont là. Mais quand on arrive à Korogo, le musée qui est là reste à désirer. Mmh. Et donc, ce qui serait important pour la Côte d'Ivoire, c'est de créer des musées régionaux qui vont impacter la vie des communautés et aussi des touristes, des gens qui viennent.
Mmh.
Voilà. On a tendance à dire que lorsqu'un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle.
Tout à fait.
Ce sont les connaissances. Et les connaissances, les informations ou encore la culture des communautés résident dans ces objets culturels, les objets d'art.
Mmh.
Et donc, seuls les musées peuvent avoir ces objets d'art-là. Et donc, aller dans un musée, c'est savoir tout sur une communauté, culturellement, historiquement et tout ça.
Je veux revenir dessus. Voilà. Est-ce que ça, je disais tantôt 4 ans après, est-ce que ça ne va rester que comme ça, au stade de projet, sans devenir palpable, sans devenir concret, ou ça le sera ? Parce que ça fait 4 ans depuis, évidemment, cette annonce-là.
Ça le sera parce qu'il y a, comme on appelle même en 2023, ils vont commencer. C'est encore un projet.
Ok.
Voilà, en 2023, peut-être que la première pierre, les travaux vont commencer là.
Mmh.
Et là où nous nous situons présentement au plateau, voilà, ça va servir de quelque chose d'autre. Et on s'est dit que pour la Côte d'Ivoire, avec la diversité culturelle, on regorge la Côte d'Ivoire, ce musée-là, il est très minime pour représenter la Côte d'Ivoire.
Ok.
Voilà.
D'accord, voilà en tout cas qui est parfait. Et en même temps, il a été dit qu'il y a 50 musées occidentaux qui détiennent 20 000 pièces d'œuvres ivoiriennes d'une valeur de 6 milliards de francs CFA. Et tout à l'heure aussi, vous le mentionnez, déjà, on a 148 objets qui seront restitués, donc le premier, le tam-tam, le tam-tam Ayokwe.
Oui.
Comment ça arrange pour rapatrier tout ça? Est-ce qu'il y a déjà des politiques qui sont bien évidemment mises en place? Parce que quand même, 20 000 œuvres, c'est pas... C'est lourd, hein?
Oui, 20 000 œuvres, c'est lourd, mais ce n'est pas lourd en tant que tel.
OK.
En fait, c'est une question de volonté.
Mmh.
Si la Côte d'Ivoire veut un grand musée, la Côte d'Ivoire peut avoir un grand musée.
On est d'accord.
Et les 20 000 œuvres aussi peuvent ne pas exister ou bien être exposées dans un seul musée.
Mmh.
Ce sont des œuvres nationales. Et si jamais les musées régionaux sont construits, il peut y avoir entre nous une certaine politique d'animation qui mettra en place des expositions itinérantes et tournantes. Et donc, l'exposition qui vient, par exemple, de Didier Ayokwe, normalement, si on avait des musées régionaux, ça pouvait faire le tour de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire les 32 ou les 30...
Les 31 régions.
Voilà, ouais. De la Côte d'Ivoire, ça pouvait faire le tour. Parce que l'objet, il est certes atteint. Aujourd'hui, il entre dans le cadre politique et il devient national.
Mmh.
Et l'objet, il faut dire que les objets sont partis très tôt. On ne peut dire que la Côte d'Ivoire ou les Occidentaux les ont volés. Mais au moment où l'objet partait, et la Côte d'Ivoire était ici un département français.
Mmh.
Donc l'objet, au moment de son départ en France, n'était pas étranger à la terre française.
Mmh. En tout cas, ça, dans la deuxième partie, bien évidemment, de l'interview tout à l'heure, on va en parler. Okay. Parce que beaucoup d'Africains montent au créneau. Aujourd'hui, on a vu des manifestations, je crois, au musée du Louvre de Paris. Un certain activiste a fait Bon, bref, on va revenir dessus. Allez-y, terminez.
Ok, donc je disais que, les 2000 œuvres arrivent, et donc, c'est une question politique, en fait.
Ok.
Il faut mettre en place des musées, et ça, c'est pas seulement le seul fait de l'État.
D'accord.
Quand on voyage en Europe, il faut voir que tout ce qui est culturel, tout ce qui est artisanal et touristique, émane de la collectivité.
Donc, nous sommes d'accord.
Et donc, les collectivités aussi ont le droit... Voilà, de se procurer et de construire des musées pour pouvoir amener la population, mieux les connaître.
Mmh. Voilà. Merci Monsieur Ogwane. C'est donc la première partie de l'interview. Dans la deuxième partie, vous serez donc amené bien évidemment à nous appeler en direct au 27 225 49 880. Voilà, et on parle ce matin de la restitution d'œuvres. Bon, pour certains, on veut parler clairement et directement des spoliations, de vol. Pour d'autres, on dit tiens, à cette époque-là, on n'était pas encore des États indépendants et souverains. Donc il y a une certaine réalité coloniale qui prévalait, etc., etc. Les amis, on en parle tout à l'heure, restez bien en place. Ne touchez à rien, ne bougez pas.
Normal, pas normal. Et si on en parlait ?